Alors le texte que nous allons lire se trouve dans l'évangile de saint Marc au chapitre 6, versets 30 à 34. Mais avant de lire, je voudrais préciser que nous allons faire un commentaire, et puis il y aura des temps de silence, notamment après le texte et après le commentaire. Ces temps de silence seront remplis parfois, notamment après le commentaire, de temps de prière. Et après ces temps de prière que je vais faire en votre compagnie, il y aura aussi des temps de silence après le commentaire, et utilisez-les aussi pour prier. En tout cas, l'enregistrement ne sera pas fini tant que vous n'entendrez pas fin de l'enregistrement. Mais avant de lire ce texte de l'évangile de Marc, je vous propose une prière à l'Esprit. Je te prie, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, afin que tu viennes écarter tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous une intelligence plus claire et plus spirituelle et merveilleuse de ta parole. Selon le mot du psalmiste, ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta loi. Donc voici la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 30 à 34. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Remarquons d'abord la sollicitude de Jésus, à la fois pour ceux qui lui sont proches, ses disciples. Il veut les amener à l'écart pour avoir de l'intimité avec eux, et ceux qui lui sont plus éloignés, non pas dans son cœur, parce que Jésus aime tout le monde d'une manière tellement particulière et proche et intense, mais disons, dans sa vie terrestre, forcément ces gens qui venaient de toutes parts lui étaient moins proches au niveau, ne serait-ce qu'au niveau spatial, que ses disciples. Eh bien, là, il a la même tendresse, la même sollicitude, puisqu'il est pris de compassion pour eux, et qu'il les enseigne longuement, eux qui étaient comme des brebis sans berger. Donc déjà, la première chose, c'est que, à l'image de Jésus, nous sommes appelés, nous chrétiens, en nous nourrissant évidemment de la présence de Jésus et de sa force, dans la prière notamment, nous sommes invités à aimer ceux qui nous sont proches et ceux qui nous sont plus éloignés, que ce soit spatialement ou même au niveau des sentiments. Ça peut être amis et ennemis, donc proches et éloignés. Nous devons leur manifester le même amour, même si ça se manifeste bien sûr différemment, bien sûr, mais l'intensité doit être la même, même si dans la mise en pratique, les choses diffèrent selon les personnes que nous sommes appelés à rencontrer ou à aimer dans notre vie. Donc, je voudrais ensuite faire remarquer que, avec Jésus, les choses vont plus en profondeur. Et là, nous basculons dans ce qu'on appelle déjà une lecture spirituelle des choses. Jésus est venu apporter une dimension tout à fait nouvelle à la charité. Parce que avant, avec l'ancienne alliance, et dans beaucoup d'autres religions, notamment dans l'islam, et dans les religions bouddhistes, l'accent est beaucoup mis, paradoxalement, les gens croient, parlant du bouddhisme, c'est très intérieur, mais si vous lisez les écrits bouddhiques, vous vous rendez compte que l'accent est beaucoup mis sur les œuvres. Et dans l'ancienne alliance, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est la même chose, ce qu'on appelle la loi, les commandements. Et les apôtres, forcément, tombent dans le même travers. Ils se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Donc, c'est leurs œuvres, leurs actes. Et ils s'estiment quittes. Alors, on peut comprendre, ils sont enthousiastes de ce qu'ils ont fait. Ça a bien marché. Parfois, ça peut moins bien marcher. Et ils sont donc ici enthousiastes et ils comptent beaucoup sur ce qu'ils ont fait. Pour eux, ce qui importe, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, ici, enseigner, c'est pareil, c'est de l'ordre du faire. Et ils rapportent tout ça à Jésus. Et avec Jésus, eh bien, c'est le venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Avec Jésus, la foi gagne en intériorité. Et nous serions bien inspirés, nous chrétiens, et tout spécialement nous catholiques, de bien nous souvenir que la foi chrétienne n'est pas d'abord une somme d'actions ou d'enseignements, mais une mise à l'écart dans l'intimité du Christ. Le Christ est le centre de la foi chrétienne. Chrétien veut dire disciple du Christ. Mot à mot, c'est un sobriquet qu'ont donné les gens d'Antioche aux premiers chrétiens, sans les actes des apôtres. Ça veut dire petit Christ. Nous sommes des petits Christ, nous sommes des disciples du Christ. Il n'est pas dit que nous sommes des disciples des bonnes œuvres, que nous sommes des disciples de la théologie. Nous sommes des disciples du Christ. Donc, venez à l'écart. Donc, la prière est importante. Et on se rend compte que, dans ce texte, quand on se met à l'écart, à l'écoute du Christ, eh bien, on est rattrapé effectivement par la mission. Vous voyez, les apôtres commencent par, il y a la mission, et c'est ça qui compte. Jésus leur dit, non, ce qui compte, c'est la prière, c'est d'être avec moi, la méditation de la parole, parce que par la parole, nous approchons le Christ, c'est comme ça qu'il nous parle. Donc, là, nous sommes là, dans cet endroit désert. Mais, la mission nous rattrape, effectivement. L'autre travers serait de penser que la foi seule sauve, et peu importe les œuvres. Non. Les œuvres sont filles de la foi. Et ici, le texte nous montre bien que quand on suit Jésus, quand la foi chrétienne est bien comprise par rapport aux autres religions ou à l'Ancien Testament, eh bien, quand on suit Jésus, cette mise à l'écart en sa compagnie, eh bien, va nous replonger dans la mission d'une manière plus exigeante. Et c'est ce qui se passe. Ils ont à peine le temps de se reposer. Alors, le repos, c'est ils ont quand même un temps de repos dans le texte. C'est la traversée du lac, évidemment. Ça dure un certain temps. Ça a duré quand même un certain temps parce que les gens à pied ont eu le temps de rejoindre l'autre rive avant la barque. Donc, je pense pas qu'ils soient précipités. Donc, ils ont vraiment fait un temps de retraite sur le lac. Et ils arrivent et donc, il y a encore plus de gens. Et le Christ montre l'exemple. Fort de cette retraite, si j'ose dire, eh bien, le Christ nous montre qu'il est comme revigoré dans son sentiment d'amour pour les autres et il va les enseigner avec encore plus de tendresse. C'est ce que la prière peut apporter dans nos vies. C'est ce que le Christ nous apporte. Une fréquentation du Christ dans la prière, les sacrements, la messe et la méditation de la parole, seul chez soi, dans un esprit de prière, sous la mouvance de l'esprit, eh bien, ceci nous fait gagner en profondeur et notre mission, notre évangélisation, notre charité vis-à-vis de ceux que nous côtoyons et de ceux que nous aimons moins aussi, va gagner en profondeur et donc en efficacité. Et ça, disons, c'est l'interprétation littérale et allégorique. Donc le Christ est le centre. Le Christ nous donne une dimension à la fois, disons, plus humaine, plus charnelle, dans le sens où les sentiments sont là et ce n'est plus qu'une somme, la foi ne se résume plus à une somme d'actes additionnés par lesquels nous gagnons notre bonne conscience. Maintenant, si nous voyons vers la vie intérieure, si nous portons notre regard là-dessus, on peut voir une chose. On peut voir d'abord que si on vit notre vie chrétienne, et là on rejoint ce que je viens de dire, comme de l'extérieur, il faut faire des choses, eh bien très vite nous allons être contents de nous-mêmes, satisfaits de nous-mêmes. Si on accepte de se mettre à l'écart avec le Christ et de voguer sur la barque avec lui pendant ce temps d'entraide, et si le lac symbolise aussi l'inconscient, la mort aussi, mais ici l'inconscient, ce que nous ne maîtrisons pas, si avec le Christ nous surfons sur ce domaine-là, de la vie intérieure, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de travail qu'il n'y paraît. c'est ce qui arrive en débarquant. Le Christ montre les choses. Les apôtres, eux, sont contents de ce qu'ils ont fait. Ils se contenteraient bien de dire, on se repose, on verra bien la prochaine fois, on en a assez fait. Le Christ leur dit, venez à l'écart. Ils sont donc au contact du Christ, sur l'eau qui représente, disons, les choses inconnues, de l'inconscient. Et une fois qu'ils débarquent, ils se rendent compte que ben, il y a encore du boulot, contrairement à ce qu'ils pensaient. Et justement, sur ce lac, qu'est-ce qu'ils voient? Quelles sont les profondeurs qui sont dans ce lac, si j'ose dire symboliquement? Eh bien, ils voient qu'il y a encore tellement de travail. Ils voient que, eh bien, les gens sont nombreux, tellement nombreux qu'on n'a même pas le temps de manger. Ces gens, ils sont là, ils sont demandeurs. Ils veulent aller rejoindre le Christ et ses apôtres de l'autre côté de la rive, de toutes les villes. Et ils courent même. Eh bien, si on prie, si on vit cette foi au Christ, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de travail qu'il n'y paraît. Déjà par rapport aux autres. Parce que si on se contente de la surface des choses, on peut très bien se dire que telle personne est irrécupérable. Ce n'est pas la peine de lui parler du Christ, ce n'est pas la peine de l'aimer dans un amour, si j'ose dire, évangélisateur, pour nourrir la présence du Christ. Autant les laisser tomber, ils n'en valent pas la peine. De nous-mêmes, si on reste à la surface des choses par rapport à nous-mêmes, on se dit, eh bien, il y a des choses qu'on accepte dans nos vies, pensant que, eh bien, le Christ s'en accommodera ou ce n'est pas grave. Et si l'on accepte d'être à l'écart sur cette barque, alors nous commençons à voir apparaître des choses à la surface du lac. Par rapport aux autres d'abord, il y a une soif qui habite tous nos frères, même les plus fermés à Jésus, qu'il ne faut jamais oublier. C'est ce que symbolisent tous ces gens qui sont là comme des brebis sans berger. Parce que dans l'inconscient, il y a ces gens-là qui sommeillent. Et effectivement, cette soif de Dieu est étouffée par leurs propres fautes, leur propre aveuglement, par notre société qui met Dieu à l'écart. La télévision, les programmes très matérialistes, notre laïcité si agressive et maladroite, tout ça additionné chasse Dieu. Et finalement, toute cette soif de Dieu se trouve comme des brebis sans berger. Et si nous nous rendons compte que en tout homme, même celui qui semble plus fermé, irrécupérable, plein de défauts, plein de colère, si en tout homme il y a cette soif qui est prêt à courir vers le Christ, alors les exigences sont énormes. Et le Christ nous le montre. Ils sont comme des brebis sans berger et ils ont besoin qu'on les instruise longuement. Et comment, là, maintenant, dans notre vie de tous les jours, peut-on faire avec ces gens? Eh bien, les instruire longuement, c'est par l'exemple, par la patience, par la charité, par la prière, l'intercession, puisque c'est là où on met le Christ dans le coup, si j'ose dire, ou plutôt il est déjà là, mais c'est là où on suit l'œuvre du Christ et on arrive à les instruire longuement par nos actes et pas peut-être par les paroles aussi, les paroles de réconfort, et avec la grâce qui fait son chemin, viendra le temps du témoignage explicite. À ce moment-là, c'est ouvertement qu'ils demanderont à être instruits longuement. Et là, il faut aussi nous préparer par des temps de prière, par des temps de méditation de la parole. Donc vous voyez, au lieu d'avoir une attitude méprisante ou de rejet par rapport à certaines personnes, le fait d'entrer en prière et de prendre conscience que Jésus est sur la barque avec nous, donc dans le cœur de nos frères, il est dans le lac avec nous, il nous montre des choses dans le cœur de nos frères, alors on se rend compte qu'il habite une soif dans ce cœur, il y a quelque chose qui les habite, le Christ est déjà là en eux, donc ça élève les exigences. On n'en a jamais fini d'aimer nos frères et de témoigner de notre foi de manière implicite ou explicite, par les paroles de manière explicite, par la charité de manière implicite, et on n'en a jamais fini. Et alors, vous voyez, les apôtres se contentent des choses extérieures, ils naviguent sur le lac, donc ils approchent un domaine, disons, inconnu, le fond de l'eau, si j'ose dire, ils sont sur quelque chose d'instable, de pas carré, et sont en présence du Christ, donc à l'écart, dans un endroit désert, dans la prière, et bien, avec cette vie de prière, avec cette vie d'intercession, nous rendons compte, en débarquant, qu'il y a plein de boulot, que ce n'est pas fini, qu'il y a à conquérir l'évangélisation des profondeurs de nos frères, par l'intercession, par la charité. Et pour nous-mêmes, c'est la même chose. Si nous contentons de l'extérieur, souvent nous sommes satisfaits de nous-mêmes. Si nous commençons à nous retirer sur le lac dans un endroit désert et à surfer sur nos eaux croupissantes parfois, eh bien des blessures apparaissent, des défauts apparaissent. Et alors nous rendons compte qu'il y a en nous plein de choses qui demandent à être évangélisées, qui courent vers le Christ, qui veulent aussi entendre ce berger, qui sont comme des brebis sans berger parce qu'on a tellement refoulé telle blessure, tel défaut, eh bien, à l'image du Christ, à sa lumière plutôt, eh bien, nous voyons ces choses-là et nous sommes invités donc à ne pas les négliger et à accueillir tout ce boulot qu'il y a, tous ces gens qui courent, il y a tellement de monde qu'on n'a pas le temps de manger. Il y a toujours un travail à faire sur soi-même. Et alors, laissons-nous éclairer à la lumière du Christ. Et alors, une fois que nous aurons vu cette lumière, c'est comme si on débarquait. Alors on voit cette grande foule à évangéliser en nos profondeurs, ces blessures aussi qui ressurgissent. Eh bien, alors là, épousons le Christ et saisis de pitié. Laissons le Christ nous instruire longuement en priant le Christ de venir guérir, panser nos plaies intérieures. Et alors, à ce moment-là, nous verrons aussi qu'il y a des efforts à faire sur nous-mêmes pour épauler ce travail du Christ de guérison de nos blessures. Vous voyez, c'est beaucoup plus exigeant que de se contenter de regarder la surface des choses. Les actes, simplement, par rapport à nos frères et à nous-mêmes, on en est vite satisfait, on en a vite assez fait. Alors que si on prend cette barque et on va à l'écart avec le Christ, eh bien s'ouvre à nous un monde intérieur du lac qui nous montre que nos frères et nous-mêmes sont bien loin d'être évangélisés et qu'il y a beaucoup de travail à faire malgré les apparences. Et enfin, la dernière interprétation, on ne peut pas la négliger, c'est la vie après la mort. Vous voyez, ici, les apôtres donc se contentent de cette vie, la surface des choses. Le Christ les emmène sur le lac. Et dans la Bible, l'eau représente aussi non seulement l'inconscient, mais la mort. C'est un petit peu comme si le Christ leur faisait une visite de ce qu'il y a après la mort. Il les fait passer sur l'autre rive, voyez. Et alors, quand on commence à se rendre compte, quand on commence à penser par rapport à l'autre vie, les choses deviennent aussi très différentes. D'abord, nous n'avons plus les mêmes priorités. Et nous rendons compte que tous ces gens que nous estimions irrécupérables, eh bien, parce que nous nous disons, et parfois c'est vrai, dans cette vie, jamais ils ne changeront, surtout des personnes âgées, par exemple, eh bien, nous rendons compte que tout ce que nous faisons par rapport à nos frères a un poids d'éternité, que cela va peser dans la balance, si j'ose dire, parce que nous, hommes, par notre intercession, notre amour, nous posons des jalons qui vont ouvrir les cœurs fermés quand ils se présenteront devant Dieu, tous ces gens fermés. Alors si nous nous rendons compte que tous nos actes de charité, tous nos témoignages, toutes nos intercessions construisent comme des clés qui vont ouvrir les portes des cœurs fermés de nos frères quand ils se trouvent devant Dieu, quand ils vont le voir après le grand passage, eux aussi passeront le lac, eh bien, alors ce que nous avons fait va jouer à ce moment-là. Parce que ces gens-là, comme toute personne, ne sont pas pleinement libres dans leur refus de Dieu. Et il va vraiment falloir que nous leur donnions un espace de liberté. Eux ne l'ont pas. Notre société ne leur donne pas forcément. Parce que quand vous regardez, tout est fait pour évacuer Dieu. Eh bien, nous chrétiens, nous sommes des portes de liberté vers le ciel par nos intercessions, par nos actes. Nous réintroduisons Dieu consciemment ou même dans leur inconscient. Et quand tout va s'ouvrir, après la vie, après la mort, avec la vie après la mort, quand ils vont se trouver face à face avec Dieu, alors les clés que nous aurons posées en cette vie vont servir à ce que leur cœur s'ouvre et que pleinement, maintenant qu'ils vont être face à Dieu, ils s'ouvrent à Dieu. Donc, nous n'en avons jamais fini. Il y a ces gens qui courent dans leur cœur, il y a cette soif de Dieu qui les habite, qui va pleinement trouver son éveil après la mort. Et notre rôle aura été vraiment de les préparer à cette rencontre. Donc, on n'en a jamais fini. Et le texte nous montre, donc Jésus vit une grande foule, c'est aussi nous. Quand nous avons vu les choses sous un angle différent, en traversant le lac, avec cette perspective de la vie après la mort, alors nous savons qu'il y a toujours à instruire nos frères, même quand il semble irrécupérable, est proche de mourir sans avoir ouvertement rencontré Dieu. Alors il va falloir les instruire longuement, c'est-à-dire être patient, ne jamais se décourager, en toujours priant et témoignant par notre charité, notre patience, notre douceur dans nos actes et nos paroles, et pourquoi pas dans un témoignage explicite. C'est aussi une vue pour nous montrer le purgatoire, parce que Jésus nous montre une chose, c'est qu'après la mort, ça rejoint ce que je viens de dire, il y a encore du boulot, il faut prier pour les âmes qui sont passées de l'autre côté, justement parce que ces clés qui ouvrent leur cœur peuvent prendre un certain temps. Dieu ne viole pas la liberté des gens, et parfois il faut du temps aussi pour qu'après ce face-à-face, il y ait une purification. Donc, voyez, on en a assez fait, ils sont morts, c'est fini. Non. On traverse le lac, on se rend compte qu'il y a du boulot, et avec le Christ, on va les instruire longuement en priant pour ces âmes, pour que le Christ puisse pleinement les enseigner au purgatoire. Et la dernière chose qu'il faut signaler, c'est que il faut aussi voir notre propre mort. Le Christ, nous avons agi, nous avons fait des choses sur cette terre, le Christ nous emmène à l'écart, il nous fait traverser la mort, le lac. Quand nous arrivons de l'autre côté, nous rendons compte qu'il y a encore du boulot. C'est ce que Sainte Thérèse disait, Sainte Thérèse de Lisieux. Elle va continuer à faire du bien sur cette terre, et même plus maintenant qu'elle sera au ciel. Ça sera notre rôle aussi, comme les anges, de prier pour cette terre, pour nos familles, pour les gens qui vont nous survivre. Vous voyez, nous aurons cette mission. Et alors, quand nous serons de l'autre côté, nous verrons pleinement la soif qui habite tous ceux qui nous paraissaient fermés. Tous ces gens qui, dans les cœurs, accourent, veulent voir Jésus. Nous le verrons en pleine lumière. Et alors, il y aura du boulot pour les aider, pour prier pour eux dans notre ciel. Car jusqu'à la fin des temps, nous avons la mission de suivre le Christ, qui, comme le dit l'Épître aux Hébreux, et dans l'Épître aussi aux Romains, le Christ intercède pour nous maintenant qu'il est monté au ciel. Nous aurons ce même rôle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur ce texte. Donc si nous résumons, avec la prière, en nous mettant à l'écart, nous voyons qu'il y a beaucoup de travail par rapport à la vie après la mort, et aussi par rapport à l'inconscient de nos frères et nous-mêmes, et donc nous n'avons jamais fini, car nous sommes appelés non pas à travailler tant en quantité, mais en qualité, c'est-à-dire en profondeur. Voilà. Je vous propose de relire ce texte à la lumière du commentaire qui vient d'être fait. Et après, je vous laisserai un temps de silence. Et avec moi, nous pourrons prier aussi ensemble. Après leur mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les instruire longuement. Seigneur, apprends-nous à ne pas négliger ces temps où tu veux nous amener à l'écart avec toi, pour que nous puissions vraiment aller dans la barque et voir ce qu'il y a sur et dans le lac. Oui, Seigneur, donne-nous vraiment toujours le sens des priorités. C'est-à-dire toi d'abord et la prière pour mieux agir ensuite. Fort de cette prière, Seigneur, fort de cette fréquentation avec toi, apprends-nous que la foi n'est pas une somme d'actions, mais vraiment de voir l'intérieur des cœurs de nos frères, que tu nous donnes, toi, de voir à ta lumière. Apprends-nous à toujours voir dans les frères les plus éloignés, les plus antipathiques, vraiment cette soif de Dieu qui les habite, et que cela nous encourage à redoubler d'amour et de charité, fort de ton aide. là maintenant, Seigneur, nous te prions pour les personnes justement qui nous semblent très fermées, que nous avions tendance à juger comme irrécupérables. Maintenant, nous les confions à ta grâce et nous te demandons de nous aider à les aimer davantage. Nous te confions aussi, Seigneur, nos zones intérieures. Nous acceptons que tu mettes en lumière toutes nos blessures, tous nos défauts. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Viens vraiment nous éclairer et viens nous instruire longuement dans ces blessures, dans ces défauts, dans ces zones d'ombre. Oui, viens nous instruire, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nous, pour tous ceux qui sont proches de mourir, pour cette grande rencontre qu'ils feront avec toi. Oui, Seigneur, ouvre leur cœur. Ouvre leur cœur avant leur mort ou après leur mort, lors du face-à-face. Nous te prions aussi pour ceux qui sont déjà de l'autre côté. Oui, Seigneur, nous te prions pour que tu puisses les purifier pleinement, pour qu'ils te disent enfin pleinement oui. Et enfin, nous te prions pour que dès cette vie, tu nous prépares à notre mission de l'au-delà, mission d'aide et d'intercession. Oui, remplis-nous déjà de cet amour par ton esprit. Cet amour qui n'en finit pas d'aimer. Amen. Avant de conclure, je voudrais faire une prière pour que vraiment nous assimilions pleinement ce texte que le Seigneur nous a donné de partager ensemble. Seigneur, donne-nous l'intelligence plus claire de tes autres prophéties. Ouvre davantage nos sens à la vérité. Et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré en toi, Christ Jésus, notre Seigneur, à qui appartient la gloire et la puissance. Amen. Fin de l'enregistrement.